chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. La crise qui secoue la Côte d'Ivoire depuis les élections calamiteuses de la semaine dernière laisse encore pointer le nez de l'afro-pessimisme latent. Sur le forum du Monde, nous lisions ainsi aujourd'hui « Les peuples africains sont tels que leurs dirigeants, complètement coincés entre leur culture d'origine dépassée et la culture occidentale de leurs anciens colonisateurs. On ne voit pas trop de solutions. Faut-il que des catastrophes arrivent pour changer la donne ? Sombre perspective, mais perspective quand même. » Fin de citation. Citation intéressante, à plus d'un titre, en ce qu'elle relaie les clichés qui circulent quant à l'histoire africaine. Le mythe des origines, la perspective d'une histoire bloquée, une histoire qui se résumerait en définitive à une litanie de massacres.
Aujourd'hui, donc, dans 20 minutes d'histoire, nous prenons notre bâton de pèlerin et entreprenons de tordre le cou à ces clichés. Et pour évoquer cette histoire africaine riche, complexe, nous recevons Pascal Barthélémy. Bonjour.
Bonjour.
Pascal Barthélémy, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'ENS de Lyon et membre de l'Institut universitaire de France. Vous consacrez vos recherches aux femmes en situation coloniale en croisant les problématiques du genre et de la situation coloniale. Et vous venez de publier aux presses universitaires de Rennes « Africaine et diplômée à l'époque coloniale, 1918-1957 », un ouvrage qui est issu de votre thèse dans lequel vous vous intéressiez au petit monde des évolués au féminin, c'est-à-dire à ce petit millier de femmes passées par l'école coloniale et devenues sages-femmes ou institutrices. Donc pour ouvrir le débat, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement l'état de la recherche en histoire africaine ? On a un peu l'impression qu'après une crise dans les années 90, le discours de Dakar en 2007 a révélé, sinon suscité, une histoire qui, en réalité, a beaucoup avancé.
Alors, je voudrais commencer donc par préciser qu'il n'y a pas une histoire de l'Afrique, mais une histoire des Afriques. Des Afriques parce qu'on a toujours tendance, donc en France et en Occident d'une manière générale, à décrire ce continent comme une entité globale et donc à parler des crises africaines, des massacres africains, en oubliant qu'il y a une extrême diversité de situations et puis qu'il s'agit de définir aussi si on parle de l'Afrique subsaharienne ou si on intègre également le Maghreb. Alors pour ce qui est du paysage historiographique aujourd'hui, c'est vrai qu'on est d'une certaine manière à un tournant après une historiographie qui a été très divisée, on va dire, entre d'un côté, née à l'époque même de la colonisation, une histoire coloniale, qui était en partie au service de l'entreprise coloniale, et puis née plutôt dans les années 50 et qui s'est développée beaucoup après les indépendances, une histoire de l'Afrique, qui a été extrêmement dynamique. Extrêmement dynamique, mais finalement dont les résultats sont peu passés dans le grand public, ou en tout cas n'ont pas, on va dire, été assimilés, et donc ils restaient peut-être un peu confidentiels. Et c'est vrai que depuis le début des années 90, moi je dirais, on a une nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses qui ont un regard peut-être plus apaisé, plus distancié par rapport à cette histoire de l'Afrique voilà, sur la longue durée. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tout un ensemble de travaux qui se développent au sein de pas mal de laboratoires à l'Université Paris 7, à l'Université Paris 1, à Aix-en-Provence de manière, depuis longtemps aussi, à Bordeaux autour des politistes, à Sciences Po Paris aussi, voilà, qui montrent qu'on a une forme de renouvellement.
Alors l'histoire africaine, on l'a vu donc, est plutôt dynamique. Et pourtant, dans l'espace public, les clichés perdurent, par exemple avec cette phrase de Nicolas Sarkozy sur un homme africain pas assez entré dans l'histoire. Comment expliquez-vous ce décalage justement de la sphère publique avec la sphère universitaire ?
Alors, je crois qu'il n'y a pas que dans l'histoire de l'Afrique qu'il y a un décalage comme ça entre la recherche et le message qui passe dans le grand public. Alors, il y a trois acteurs. Il y a les chercheurs qui ont peut-être une partie de responsabilité. Il y a les médias qui participent à la diffusion des travaux. Et puis, il y a effectivement la demande sociale qui crée aussi un certain discours donc, et qui s'inscrit dans un contexte politique global. Donc, je crois qu'il y a pas du tout un déficit de travaux, ça c'est très clair. Et je dirais même que, alors dans un de ses derniers ouvrages, Catherine Cochré-Vidorovitch, donc sur les enjeux politiques de l'histoire coloniale, refait la liste de toutes les grandes thèses d'histoire de l'Afrique soutenues dans les années 60-70, extrêmement importantes, mais dont effectivement les résultats finalement sont assez peu passés. Et je crois que c'est aussi notre rôle en tant que chercheur et qu'universitaire de faire ce qu'on appelle, à tort à mon avis, la vulgarisation, mais effectivement d'essayer d'aller à contre-courant d'un discours souvent simpliste.
Et l'histoire africaine ne pâtit-elle pas des clichés qu'on lui associe souvent d'une histoire faite que de massacres, que de de crimes, de guerre, etc.
Oui, mais ça, je crois qu'on le voit bien avec ce que vous avez dit en introduction autour de la Côte d'Ivoire. Il est clair que, et ça, c'est quand même très franco-français, l'Afrique n'apparaît dans les médias que lorsqu'il y a une situation de crise. Donc forcément, l'imaginaire qui se construit autour de ces pays et de ces sociétés est un imaginaire associé à ces situations de crise. Alors c'est aussi un phénomène médiatique. C'est vrai que voilà, on ne parle que de ce qui peut faire vendre et que c'est effectivement plus vendeur de parler de la crise ivoirienne, des massacres ethniques, des luttes tribales, que bah, d'expliquer que voilà, il y a de plus en plus d'enfants qui sont scolarisés, que d'expliquer que on a un dynamisme économique quand même très fort dans certaines régions du continent. Enfin voilà, donc c'est clair que disons que les évolutions de temps long n'apparaissent pas dans le discours médiatique et que ce qui apparaît c'est les crises conjoncturelles. Et que c'est vrai que forcément, ça donne une image, même si enfin là, en l'occurrence, sur la Côte d'Ivoire, c'est assez concrètement très déplorable. Mais bon, on ne parle pas aussi de tout ce qui marche bien en Côte d'Ivoire. Hein, et on présente un tableau qui est souvent, comme vous dites, afro-pessimiste.
Alors, dans le même ordre d'idées, on a tendance à parler de l'histoire de l'Afrique en oubliant la diversité du continent africain, on en a parlé tout à l'heure, sur il faudrait mieux parler d'une histoire des Afriques plutôt qu'une histoire de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là particulièrement ?
Oui, ben je crois en plus qu'en France, on est sur une histoire essentialisante de l'Afrique, mais qu'on perçoit à travers notre prisme français. C'est-à-dire pour nous, l'Afrique, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, c'est devenu un peu le Rwanda de manière dramatique, mais on oublie en permanence ce qui se passe dans les anciens pays anglophones, le Ghana, le Nigeria, également l'Afrique du Sud, qui est un cas tout à fait quand même particulier. Et donc, ça conduit à avoir une vision très biaisée. Bon, sur le discours de Dakar dont vous parliez tout à l'heure, les réactions ont été tout à fait différentes dans les pays francophones et dans les pays anglophones. Les historiens de l'Afrique anglophone et même certains responsables politiques ont très bien expliqué que finalement ce discours n'aurait pas pu avoir lieu dans un pays anglophone parce que, en général, quand même, le lien avec la métropole s'est recomposé de manière tout à fait différente de ce qu'on peut observer entre la France et son ancien précaré, son actuel précaré. Donc je crois qu'on oublie, on voit toujours en France, hein, l'Afrique à travers ce prisme des relations franco-africaines liées à la colonisation. Et par exemple, on ne parle jamais de l'Éthiopie, qui est quand même un très grand pays africain. Sinon, pour en souligner l'extrême pauvreté, etc., on ne va pas parler, sauf en cas de crise, du Zimbabwe. Donc on a une vision très étroite, hein, à la fois très englobante, et très étroite, très réductrice.
Et qu'est-ce qui fait la différence, enfin, sur quoi repose véritablement la différence des liens entre la métropole anglaise et les pays anglophones aujourd'hui, et les métropoles françaises et l'ancien précaré français ?
Alors, c'est un très vaste sujet. C'est le produit d'une histoire longue, c'est-à-dire aussi de l'histoire coloniale, mais pas seulement, parce qu'en fait, on a tendance à toujours comparer la France et la Grande-Bretagne en matière de colonisation, en disant d'un côté les Anglais ont pratiqué l'association, de l'autre côté les Français ont pratiqué l'assimilation. Ça, c'est un discours, par exemple, qui est toujours présent dans les manuels scolaires et qui est complètement contredit aujourd'hui par les chercheurs qui, au contraire, ont bien montré comment les Français avaient pratiqué l'utilisation des auxiliaires locaux, voire des chefs locaux, pour administrer. Et comment les Anglais, justement, avaient encouragé, par exemple, les études en métropole de décoloniser. Enfin, comment on a une circulation des étudiants, alors par exemple, kényan, entre le Kenya, l'Afrique du Sud, les États-Unis et la Grande-Bretagne, de manière beaucoup plus massive que ce qu'on n'a jamais pu voir entre des étudiants sénégalais et la France. Donc, c'est le produit de cette histoire coloniale où, effectivement, ce n'est pas deux modèles qu'il faut complètement opposer, mais les Britanniques ont suscité, plus que les Français, l'émergence d'une élite locale qui a conquis son indépendance, bon, comme au Ghana, à Nkrumah en 1957, et qui comment dire, avait une maturité politique sans doute plus importante. Et puis surtout, au lendemain des indépendances, les Britanniques se sont globalement détournés de leurs anciennes colonies africaines, alors que la France a mis en place un réseau France-Africain absolument verrouillé. Alors d'ailleurs, j'en profite pour signaler, je ne sais pas si ça sera diffusé à temps, mais que donc demain, demain, donc jeudi 9 décembre, est diffusé le premier épisode sur France 2 d'un documentaire qui vient d'être réalisé qui s'appelle « La France-Afrique ». Qui passe en deux volets, donc pour la première fois sur une chaîne de service public, demain et jeudi 16 décembre, et donc j'ai vu dans une avant-première au Forum des Images, et qui montre parfaitement l'entretien de ce qu'on appelle les réseaux France-Africains, enfin comment ça s'est produit sur le temps très long, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui.
Ces dernières années, on a brièvement parlé, on a connu quelques polémiques, les conséquences positives de la colonisation, le discours de Dakar sur lequel vous êtes un peu revenu. Comment est-ce que vous vous positionnez en tant que chercheur par rapport à ces polémiques, face à ces polémiques ?
Alors, sur à quoi vous faites référence, c'est-à-dire l'article 4 de la loi du 23 février 2005, donc, qui engager à la fois donc les programmes d'enseignement secondaire et les universitaires à accorder une place, disons la place qui lui revient, l'expression c'est celle-là, au rôle positif donc de la colonisation. Ça a suscité des débats assez considérables. On était dans un contexte très très tendu hein, depuis déjà le début de l'année 2005, parce qu'il y avait eu auparavant l'appel aux assises de l'anticolonialisme postcolonial donc par les indigènes, ceux qui se sont dénommés les indigènes de la République. Il y a eu la loi du 23 février, il y a eu donc une mobilisation très forte des universitaires. Qui a finalement conduit au retrait précipité, enfin quelques mois plus tard, de cet article litigieux. Il y a eu la parution du livre de Nicolas, dirigé par Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, La fracture coloniale. Il y a eu la création du Conseil représentatif des associations noires de France, tout ça en une année, hein, en quelques mois. Donc 2005 a été vraiment une année, et puis elle s'est terminée par les émeutes dans un certain nombre de banlieues de villes françaises en novembre. Alors, sur le fond, moi, au moment de la loi, évidemment, j'étais totalement opposée à cet article. Après, les choses ont été plus compliquées quand deux camps se sont formés d'une certaine manière, entre d'un côté les fondateurs du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, autour de Gérard Marial à l'origine, et puis de l'autre côté les historiens qui se sont rangés derrière l'appel qui avait été lancé dans Libération, « Liberté pour l'histoire ». Et qui, eux, donc Liberté pour l'Histoire, appelaient au retrait de toutes les lois mémorielles, de la loi Guesso, en passant par la loi Taubira, la loi sur le génocide des Arméniens, et puis bien sûr la loi sur la colonisation positive, bon, pour faire simple. Et donc, je dirais que moi, je me situe plutôt du côté du CVUH, parce que je ne considère pas que les historiens n'ont rien à faire avec la politique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une demande sociale, il y a des situations de crise, et que le rôle des universitaires, c'est aussi de donner les outils et de participer à ce genre de débat. Et donc, évidemment, je suis contre toute manipulation politique de l'histoire, bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas dire, voilà, le chercheur fait ses recherches et peu importe... voilà, enfin, l'utilisation qui peut en être faite. Donc, je dirais que je pense quand même qu'on a un rôle voilà, social à jouer, surtout sur des questions aussi vives, comme on dit.
Et donc, en définitive, est-ce que faire l'histoire de l'Afrique, donc on l'a vu outre l'inscription dans le débat public, est-ce que c'est faire une histoire militante ?
Alors, moi, je dirais que je fais une histoire doublement militante, parce que je fais l'histoire de l'Afrique et l'histoire des femmes. Pour autant, je ne dirais pas que je fais de l'histoire militante. Alors là, je reviendrai... Enfin, on pourrait l'interpréter comme ça. C'est-à-dire que par rapport à ce que je viens de dire, je pense que les chercheurs ont un rôle social à jouer, les enseignants évidemment aussi. Pour autant, quand je travaille, quand j'écris, etc., je pense que c'est évidemment toute la rigueur de la démarche historienne qui fait le caractère militant de ce qu'on fait. Alors après, on peut participer à des débats citoyens, prendre plus de positions, je dirais, politiques. Hein, mais je ne dirais pas que je fais de l'histoire militante, mais je dirais que l'histoire que je fais peut servir à défendre, voilà, ou en tout cas au moins à faire apparaître un certain nombre de choses. pour l'histoire des femmes, c'est très clair. Je ne vois pas trop comment on peut faire une histoire des femmes qui ne soit pas féministe, au sens où on fait de l'histoire, mais ce qu'on met en exergue va dans le sens d'une lutte pour plus d'égalité. Donc on respecte les règles de la méthode historique, et en même temps, ce que l'on produit comme information participe d'un militantisme.
Ce serait une histoire militante, mais dans les règles de la production historique.
Oui, mais je crois que les règles de la production historique, c'est quand même aussi toujours de faire des choix dans ce qu'on décide d'inscrire ou de ne pas inscrire dans un livre, dans ce qu'on décide de regarder comme archive ou pas. Donc je crois que l'idée d'une histoire qui serait totalement neutre, qui prendrait à bras le corps absolument tous les éléments sur un sujet, est une idée totalement utopique. Est-ce que c'est du militantisme ou pas ? Non, enfin, il me semble que c'est la méthode de l'historien qui consiste quand même à faire des choix, et que ces choix ont un sens et qui peuvent effectivement être appropriés par d'autres pour défendre telle ou telle cause. Mais ça me fait penser aux travaux de Raphaël Branche sur la torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie. C'est clair que elle n'est pas une historienne militante, mais un livre sur la torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, en soi, c'est un livre qui fait discuter, hein, et qui provoque des réactions fortes. Donc voilà.
Aujourd'hui, dans l'histoire africaine, c'est très caricatural, mais on a deux camps très opposés, pas en histoire africaine, en histoire coloniale, entre ceux qui dénoncent la tyrannie de la repentance et, à l'inverse, d'autres qui font leur miel de la mémoire coloniale, au risque peut-être d'attiser un passé qui ne passe pas. On songe notamment à l'achat qui a assez fer de lance Nicolas Bancel et Pascal Blanchard. Donc il y a beaucoup de gens qui se situent finalement au milieu de ces deux positions clivées. Comment vous positionnez-vous par rapport à ces deux positions-là ?
Alors, encore une très vaste question. Je vais d'abord dire que il y a deux camps assez clivés, et en même temps ces camps ne sont pas homogènes. C'est-à-dire que du côté, par exemple, de ceux qui dénoncent la tyrannie de la repentance ou qui reprochent aux autres d'attiser les communautarismes et de mettre en danger l'universalisme républicain et donc la société dans son ensemble, etc., en mettant l'accent sur les continuités entre la situation coloniale et la situation de certains enfants d'immigrés aujourd'hui. Donc, parmi ceux qui font ces reproches-là, vous avez autant, par exemple, un Jean-Louis Amsel, anthropologue, qui va écrire L'Occident décroché, enquête sur les postcolonialismes, où il dénonce l'afrocentrisme, et donc où il y a beaucoup de choses contestables, mais il y a quand même un contenu qui est intéressant, et on est quand même dans le cadre d'un travail universitaire. Et puis vous avez Pascal Bruckner, vous avez la revue Historia qui a publié un numéro l'année dernière sur pour en finir avec la repentance ou quelque chose dans cet ordre-là, où là il y a carrément des choses qui sont tout à fait contestables et dans lesquelles moi je me reconnais, mais absolument pas. Je pense que le mot de repentance de toute façon est un mot piégé et que ça met l'accent sur la dimension morale du sujet, et c'est pas l'objet des chercheurs. Alors du côté de Lachac et de Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, il y a tout un... j'ai lu là récemment assez attentivement leur dernier ouvrage « Rupture postcoloniale, les nouveaux paysages de la société française ». C'est assez intéressant parce que, d'abord, beaucoup d'articles sont des articles de justification de leur propre existence, en disant les études postcoloniales en France sont extrêmement attaquées et c'est injuste et on va expliquer pourquoi, etc. Donc en fait, c'est pas du contenu, mais c'est de l'auto-justification. Après, vous avez des articles assez approfondis, mais souvent qui proviennent de chercheurs étrangers, notamment Anne Stoller, américaine, qui sont des articles que moi je trouve très intéressants, qui mettent en exergue un certain nombre de permanences du colonial dans la société française, qui reconstituent des histoires, enfin une histoire sociale d'un certain nombre de collègues universitaires qui travaillent sur ces questions. Donc ça, c'est pertinent. Et puis, vous avez aussi des articles finalement assez critiques à l'égard du postcolonial. Je pense à une interview de Patrick Veil, donc, qui est faite par Nicolas Bancel dans l'ouvrage, où finalement Patrick Veil n'emploie pas le terme de postcolonial, mais plutôt en garde contre un abus de ce genre de notion et la nécessité de toujours définir de quoi on parle quand on dit postcolonial. Et donc c'est intéressant parce que c'est assez varié comme volume. Après, donc moi, j'adhère complètement à ce que la CHAC a fait à ses débuts, c'est-à-dire quand elle a été créée en 89, Association donc, pour la connaissance de l'Afrique contemporaine, c'est-à-dire exhumer tout un tas de... toute une iconographie liée à la colonisation, montrer à quel point la propagande avait été importante, ressortir des fonds de photos, de cartes postales, d'affiches qui étaient jusque-là bah, dans les fonds de, voilà, de bibliothèques ou de chez des personnes privées. Enfin bon. Et donc, ils ont exhumé des choses très, très intéressantes. Après, je les suis moins sur le volet du colonial, enfin de l'indigène à l'immigré, et sur une lecture que moi je trouve un peu trop déconnecté des réalités économiques et sociales, mais ils le revendiquent, ils disent on fait de l'histoire culturelle de la colonisation, on s'intéresse au discours, on s'intéresse aux mémoires, on s'intéresse à la manière dont la colonisation est dans les têtes, et donc à la façon dont il faut que la société française la prenne en compte, et on ne met pas l'accent sur le fait que les difficultés des jeunes de banlieue sont aussi dues, bien sûr, au taux de chômage, à leur situation très, très concrète, et pas à la colonisation, on est bien d'accord. Mais donc, si vous voulez, je pense qu'ils jouent un rôle important de signal, d'éclaireur, ils bousculent les choses. Après, il y a un côté entrepreneur de mémoire auquel je n'adhère pas du tout, et un côté bourrage de crâne. Et simplification auxquelles j'adhère pas non plus. Mais voilà, donc j'ai plutôt une position radicale socialiste vis-à-vis de leurs entreprises, mais voilà, je suis pas comme certains collègues hein, dans le champ de l'histoire coloniale qui vraiment rejettent en bloc tout ce que fait ce groupe-là. Moi, je pense qu'il y a des choses intéressantes.
Pour finir cet entretien, nous souhaiterions revenir plus précisément sur vos propres travaux. Donc vous avez dit que vous croisiez histoire du genre et histoire africaine. Quel est, selon vous, l'intérêt profond de tel croisement et est-ce que les difficultés ou les préjugés auxquels vous pouvez vous heurter sont plus ou moins similaires ou est-ce que vous rencontrez les mêmes choses dans les deux champs ?
Alors, sur le premier point, l'intérêt de tel croisement... Alors, la chose de base, c'est qu'il me semble que c'est difficile de travailler sur des sociétés et de ne parler que de la moitié de la population, et que donc il me semble qu'introduire l'histoire des femmes et l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes permet de complexifier un peu la lecture qu'on a de la réalité historique, tout simplement. Donc ça, c'est l'apport en termes de connaissances, parce que les choses ne se sont pas passées de la manière dont on dit qu'elles se sont passées si on n'intègre pas alors les femmes, alors on peut dire alors il faudrait tout intégrer à chaque fois, etc., etc. Bon. Mais il me semble quand même que le rapport homme-femme, c'est un peu particulier. Après, ce que ça apporte pour analyser la colonisation, c'est que ça permet de penser autrement la question des hiérarchies et du pouvoir. C'est-à-dire qu'on voit, quand on intègre l'histoire des femmes et du genre, on voit comment se recomposent les hiérarchies. Alors, non seulement entre colonisateurs et colonisés, mais au sein même des colonisateurs, entre hommes et femmes, au sein des colonisés, entre hommes et femmes, entre colonisatrices et femmes colonisées, donc blanches et noires en l'occurrence, entre colonisateurs et hommes colonisés aussi. Donc aujourd'hui, il y a aussi tout un champ dynamique, mais à l'étranger, pas tellement en France encore, autour de l'histoire des masculinités en situation coloniale, autour de comment devient-on à la fois un homme colonial et un homme colonisé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transmet aux hommes africains en termes de masculinité. Bon, ça a été bien travaillé par des collègues américains. Et donc, ce que certains travaux, bon, dont là, ce que les miens en l'occurrence, montrent, c'est que par exemple, en termes de formation et de scolarisation, vous avez des femmes qui, parce qu'elles sont allées dans certaines écoles et qu'elles ont acquis donc un savoir qui leur permet d'exercer un métier, ont des salaires supérieurs à ceux de certains hommes africains qui eux-mêmes peuvent être des auxiliaires aussi de la colonisation, mais moins bien payés parce qu'ils ont fait moins d'études. Donc dire ça, ça veut dire que on comprend aussi l'évolution sociale de ces sociétés. Alors ça concerne en l'occurrence là vraiment très peu de monde, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet quand même de retravailler sur ces élites qui finalement se sont pour beaucoup retrouvés au pouvoir après les indépendances, et donc c'était des couples, hein, et des couples avec donc des phénomènes aussi d'exercice du pouvoir qui ont à voir avec ce rapport homme-femme. Donc il me semble que ça enrichit considérablement nos catégories. On voit aussi en situation coloniale comment les colonisateurs hommes et des hommes africains ont pu s'associer dans certains cas, prévoir des législations pour contraindre les femmes rester à la maison, se comporter de telle ou telle manière. Donc en fait, les associations ne sont pas si simples, et ça renverse un peu les perspectives de rapport colonisateur-colonisé. La deuxième partie de la question, c'était...
Sur les préjugés que vous aviez pu retrouver dans les deux champs.
Les préjugés, moi je crois que j'ai eu de la chance parce que... ce qui est sûr, c'est que quand on dit qu'on fait de l'histoire des femmes, ça n'intéresse personne. Bon, ça c'est clair. Ça reste un champ, même si on a beau dire, là il y a beaucoup de publications, ça commence à être vraiment... ça commence pas parce que ça fait longtemps, mais je veux dire que là c'est quand même, on est dans une phase très enthousiasmante, très agréable. Mais il n'empêche que par rapport au champ de l'histoire contemporaine, on reste dans un domaine assez ghettoisé, où les postes sont très peu nombreux, mais un poste vient d'être publié au CNRS Histoire du Genre, là, pour cette année, donc c'est une très bonne nouvelle. La dernière fois qu'il y en avait eu un, il ne l'avait pas pourvu, finalement, enfin, je signale ça comme ça, donc il avait été supprimé. Mais donc on est quand même dans un secteur qui reste assez marginal et qui est regardé par beaucoup de collègues avec beaucoup de condescendance. Enfin, en disant c'est de la petite histoire ou ça apporte pas grand chose, ou l'autre argument c'est ça, on n'a pas le temps d'intégrer les femmes, on a déjà suffisamment de choses à traiter, si en plus il faut parler des femmes c'est vraiment trop. Et donc là justement c'est pour ça qu'on a réalisé, alors j'en profite pour le signaler avec une association dont je suis présidente qui s'appelle Mnemosyne, association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. On vient de publier chez Belin, donc en 2010, là, il est sorti en octobre, un livre qui s'appelle « La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte », qui est en fait un manuel à destination des enseignants de lycée et de collège, et même de l'école élémentaire, qui reprend tous les programmes officiels, donc même les derniers, là, sortis pour la seconde en septembre, et qui intègre l'histoire des femmes et du genre dans tous ces programmes, pour montrer comment, en fait, alors l'idée qui est très ambitieuse, et ça ne marche pas à tous les coups, parce que tous les travaux ne permettent pas de le faire, mais l'idée, c'est comment substituer au discours historique actuel qu'on a dans les manuels, un discours qui intègre la dimension genrée des sociétés. Alors, ça suppose aussi de faire des choix. Ça veut dire que, par exemple, quand on enseigne la Troisième République, on va mettre plus l'accent sur les mouvements féminins de lutte pour le suffrage, mettre l'accent sur le fait qu'on a une société qui n'est pas de suffrage universel, plutôt que peut-être sur l'affaire Boulanger ou sur Fashoda, bon, voilà, qu'on va peut-être laisser de côté. Alors, c'est un problème. Et alors, sur l'Afrique, la question s'est posée très récemment à propos des programmes de l'enseignement secondaire, puisque donc les civilisations africaines, enfin, à certains moments, ont été mis au programme de la classe de 5e, et ça a provoqué sur le net, dans le Figaro, une levée de boucliers de certains enseignants qui se sont insurgés en disant « Mais si on met ça, on va avoir moins de temps pour enseigner Louis XIV, Napoléon, ce qui fait l'histoire de France. Hein. » Donc, c'est toujours cette idée, donc le préjugé commun aux deux champs, c'est d'une histoire en trop, quoi. C'est-à-dire que si on fait ça, on n'a pas le temps de faire autre chose, et autre chose, c'est quand même plus fondamental. Et je crois que c'est extrêmement important de comprendre, pour ce qui concerne l'histoire coloniale en tout cas, et l'histoire des femmes aussi, donc là c'est peut-être moins l'histoire de l'Afrique, mais encore, qu'il ne s'agit pas de le rajouter, il s'agit de dire que c'est notre histoire. Donc, et donc, pareil pour l'histoire de l'immigration, il ne s'agit pas de dire on va faire un chapitre d'histoire de l'immigration, parce que comme ça, les petits descendants d'Algériens, d'Africains, qui sont dans les classes, ils vont connaître leur histoire. Mais il s'agit de dire, l'histoire de l'immigration, c'est l'histoire de France. Et je crois que ça, le message n'est pas du tout encore passé, et que ça va prendre un peu de temps. Mais, et pour l'histoire des femmes, c'est pareil. C'est-à-dire dire, c'est l'histoire de France, puisque la France est des Français et des Françaises. Donc c'est des riches, c'est des pauvres, on est d'accord, c'est des vieux, c'est des jeunes, donc on ne va pas tout le temps mettre l'accent, mais enfin, les jeunes pauvres, parfois c'est des femmes. Et donc les femmes, c'est vraiment le chaînon manquant, on va dire. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir. On est nombreuses à le faire. Alors je dis nombreuses parce que les hommes ne sont pas très, très présents dans ce champ. Mais voilà.
Pourtant, j'ai l'impression, c'est peut-être une impression, que des hommes commencent à travailler sur la masculinité, sur le genre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a peut-être une influence des études des femmes sur, justement, ce genre.
Absolument. Oui, il y a, donc ici à Lyon, il y a 2 ans, Anne-Marie Saune avait organisé un grand colloque international sur l'histoire des masculinités à l'école, qui montre, alors il y avait des chercheurs français, qui montrent effectivement que les choses se développent de ce côté-là. Alors ça a été d'abord le cas pour tout ce qui concerne, et c'est toujours le cas, l'histoire des guerres, l'histoire la première et la seconde guerre mondiale, mais on retrouve ça en histoire coloniale, comme je le disais, avec quelqu'un comme Christelle Tarot, qui a d'abord travaillé sur la prostitution au Maghreb, qui aujourd'hui travaille sur les questions de virilité coloniale. Et puis, on a aussi, j'ai perdu ma troisième idée, sur les masculinités, les guerres, le colonial. Oui, c'est ça. Et la troisième idée, c'est l'histoire des hommes féministes. Il y a eu un gros colloque l'année dernière organisé à Paris autour de ça, parce que c'est vrai que pour le coup, c'était passé à l'as. Voilà, il y a des hommes qui, depuis des décennies, luttent aux côtés des femmes pour plus d'égalité. Et c'est vrai qu'il y a peu de choses qui ont été faites sur eux. Donc, c'est pas l'histoire des masculinités tout à fait, mais enfin, c'est une nouvelle histoire dans ce champ de l'histoire des femmes. Et ça provoque des débats aussi, parce qu'évidemment, il y a toujours la crainte de dire bon, ça y est, alors on revient sur les hommes, donc les femmes vont encore passer à la trappe, et voilà. Donc ça peut provoquer des débats, mais c'est vrai que c'est un champ qui se développe tout à fait.
D'accord, très bien. Eh bien, Pascal Barthélémy, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs et chères auditrices, toute l'équipe de 20 minutes d'histoire vous remercie de votre fidélité tout au long de cette année 2010. Et nous vous souhaitons donc de très bonnes fêtes de fin d'année et prenez rendez-vous à la rentrée.